dans l'Open Mic.
Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Boulevard 102.1.
On est quoi aujourd'hui? On est mercredi.
Yeah!
C'est-tu le nombril de la semaine?
Oui. Ah, oh, mon Dieu, tu dis ça aussi.
Non, pas tout.
Ah, j'allais dire, on va s'aimer longtemps.
Tu dis ça aussi?
Ben, je l'assume pas, mais je trouve ça cute à mort.
Ah,
bon
ouais.
Nombril!
Non.
C'est comme
c'est...
C'est
lettre, un nombril. Mais,
ah, mon Dieu. Un nom... C'est vrai que c'est pas beau. Je te l'accorde.
Ouais.
Nombril. Bédaine, ouais. J'aime pas ça non plus. C'est comme des mots qui me tannent.
La badaine.
Ouais.
10-27, vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Je vous l'ai dit aujourd'hui, on va peut-être vous bouleverser dans un bon sens, des fois. Puis on y va un peu sur la personnalité d'Audrey, puis ma personnalité à moi. Des fois, ça peut être, on peut se confronter pas pire.
Oui.
C'est arrivé en début de semaine parce qu'elle m'a parlé d'un sujet qui me tient à cœur. Personnellement, mais professionnellement, je sais que c'est un sujet qui fait pas fureur quand on regarde les codes d'écoute. T'sais. Et j'ai dit à Audrey, ce sera pour une autre fois. Et Audrey a dit « Non! » J'ai dit « Oui! » Puis Audrey a dit « Non! » Puis là, j'ai dit « Oui! » Puis finalement, on en parle.
Oui. Différemment, par exemple,
Différemment.
Ça a fait cheminer.
Oui.
En début de semaine, je voulais... Puis c'est peut-être en même temps cliché, vous allez me dire. Vous êtes auditeur 88-971-1021, mais les Paralympiques commencent aujourd'hui. Il y aura cérémonie d'ouverture. Puis je serais un peu hypocrite de dire que c'est mon moment là, de l'année quand arrivent les Olympiques et les Paralympiques. Mais je trouvais ça important de mettre l'humain de l'avant dans sa différence et dans ses limites qui n'existe pas dans ce contexte-là. Puis on avait, bon, peut-être la possibilité de jaser avec une paralympienne de chez nous, tu sais, puis bref, on s'est mis à s'obstiner sur le fait que, hey, dans le fond, les Paralympiques, les gens ont l'air de s'en foutre. Ouais, mais dans le fond, c'est important, Yann, parce qu'il faut mettre l'humain de l'avant, puis c'est important que ces gens-là puissent faire leur sport, même s'ils ont une limitation puis ont un handicap.
Ouais, je pense que tout le monde pense exactement comme toi, puis je m'inclus là-dedans. C'est très important qu'il y ait une représentativité dans les Olympiques.
Absolument.
Parfait.
Et là, c'était comment on l'aborde pour pas que ça soit plate, pour que les gens aient envie d'en entendre parler. Puis on est tombé dans des conversations un peu plus psychologiques sur les comportements de l'humain. Parce que tu le dis, il n'y a personne qui va dire que les Paralympiques n'ont pas leur place, n'ont pas lieu d'être. Personne va oser dire ça. Ce serait pas bien de dire ça. Mais il y a des gens qui le pensent, qui n'en ont rien à faire, qui ne regarderont pas, qui n'ont pas d'intérêt. Puis c'est correct aussi.
En fait, la majorité des gens ne le regarderont pas.
Totalement. Fait qu'on a fait un petit vox pop, puis un petit sondage maison. J'ai envie qu'on commence avec le vox pop.
Ouais. Est-ce qu'il te reste des amis dans les gens que tu as interviewés?
Je vais savoir ça, mais qu'on sorte des ondes à 11h30.
Okay.
trois questions qui sont posées, puis vous allez comprendre un peu où on s'en va avec ça. Puis n'hésitez pas à participer, 88-971-1021, le Twitch, aussi sur le BLVD, barre en dessous FM. Trois questions. La première, est-ce que c'est important qu'on ait des Jeux paralympiques? Et là, vous comprendrez que le contexte des Paralympiques est vraiment juste un contexte, parce que ça s'applique à n'importe quoi d'humain au quotidien, le bénévolat, tout ce que vous voudrez. Là. Fait qu'est-ce que c'est important? Nomme-moi une discipline.
Aux Paralympiques?
Ben oui, mais si c'est si important, ils doivent savoir de quoi ils parlent.
Oui, il peut avoir le basketball.
Ben oui.
Il peut avoir les compétitions de vitesse.
Le curling en fauteuil roulant.
Curling. C'est plus... ça, je pense que c'est plus l'hiver. Ça se peut-tu?
Non, il y a vraiment du curling en fauteuil roulant en ce moment.
Okay.
Ah, ben, t'as peut-être raison, je veux pas m'avancer, mais sur le site des Paralympiques en ce moment, il est là.
OK.
Le football,
oui.
L'escrime en fauteuil roulant, ça existe aussi. Fait que, tu sais, il y a plusieurs disciplines. Mais je me demandais si les gens qui ne s'informent pas au quotidien sont quand même au courant. Ça les intéresse, c'était les Paralympiques. Et la dernière question, c'était c'est quand la dernière fois que tu as fait du bénévolat? Parce qu'on est tant des bons humains, tu sais. Fait que je te laisse écouter ce que ça donne.
On vous pose des questions qui vont vous mettre un peu dans l'embarras.
Est-ce que tu trouves ça important qu'on ait des Jeux paralympiques?
Ben oui.
Oui, pour encourager effectivement les gens différents, les mettre de l'avant, puis ils ont le droit d'être aussi sportifs ou même meilleurs que nous, et probablement même meilleurs que moi.
Pourquoi tu me demandes ça? Non!
Ben, pourquoi pas? Moi-même, je suis un handicapé. J'aimerais bien ça, participer à des Jeux.
Ouais, c'est vraiment important que tout le monde soit inclus dans des compétitions internationales comme les Jeux olympiques.
Est-ce que tu trouves ça important qu'on ait des Jeux paralympiques?
Tu veux vraiment me demander ça à moi? Là?
Je trouve ça très important parce que c'est une personne qui est handicapée, puis qu'une passion, puis qu'il y a un rêve, il a le droit lui aussi de réussir comme une personne qui n'est pas handicapée?
Oui. Oui, je pense que c'est important que tout le monde ait sa chance de participer dans des événements comme ça.
Nomme-moi donc une discipline.
Une discipline de paralympique, je me souviens qu'il y avait le basketball, entre autres.
La course?
C'est quoi, là? Je suis un jugement ici.
Le volleyball sur des petits assis à terre.
J'ai vu l'autre fois le volleyball. OK. Tu as vu ça?
Et la course, le 100 mètres.
Est-ce que tu prêtes attention aux Jeux paralympiques? Est-ce que tu les écoutes?
Pas tant.
Honnêtement, je trouve qu'il y a moins de couverture médiatique, c'est que c'est un peu plus difficile de savoir c'est quand, c'est où les rendez-vous. Ouais.
Non.
C'est quand la dernière fois que tu as fait du bénévolat?
Je sais pas. Je m'en rappelle pas de ça.
Ça fait pas très longtemps, en juillet.
Ouais.
On l'a-tu
déjà fait? Ben oui. La dernière fois, je m'en souviens plus.
La dernière fois, laisse-moi penser. Demain, je m'en souviens pas, pour être honnête. Fait que ça doit faire longtemps.
Quand j'étais jeune, dans une station de radio avec ma mère.
La dernière fois que j'ai fait du bénévolat, c'était cet hiver pour une compétition de taekwondo que j'étais bénévole.
Jamais?
2 ans.
Colin, t'es pas correct! Bye, bonne journée!
Faut dire qu'il savait pas nécessairement ce qu'on allait faire.
Pas du tout.
C'était juste de démontrer ce que j'essayais de te montrer à toi au téléphone. Ouais. Là, quand je te disais, tu sais, Audrey, tout le monde va te dire que c'est super important, les Jeux paralympiques. Puis c'est la raison pour laquelle toi, tu voulais en parler dans notre émission. Mais concrètement, quand on regarde les cotes d'écoute des Jeux paralympiques, tout le monde s'en crisse. Et je trouve ça pathétique que quelqu'un dise « Oui, oui, à mes yeux, à moi, c'est super important. »
Mais tu regardes pas.
Puis ils regardent pas.
Puis là, on s'entend qu'on généralise. Je sais qu'il y a des gens qui les regardent. Puis encore une fois, je pense qu'on a tous de l'admiration pour les gens qui y participent, qui sont impliqués dans ce processus-là. Mais ça s'applique à tout. Là, il y a le contexte des Paralympiques, ouais. Mais ça s'applique dans n'importe quel genre de situation.
C'est ça.
Tu sais, on parlait de la bouchée généreuse. On trouve tout ça épouvantable que les familles aient de la misère à se nourrir. Ouais. Quand est-ce que tu es allé faire du bénévolat la dernière fois?
Quand est-ce que tu as donné la dernière fois?
C'est ça, tu sais. Ouais. Puis c'est au bout de nos doigts. Il y a tellement de causes, il y a tellement de moyens de s'impliquer de plein de façons. Puis là, on tu sais, je parle de bénévolat, bon, dans le plus dramatique de la chose, mais que ce soit Nez Rouge, tu sais, il y a plein de façons de donner de son temps, mais on ne le donne pas, notre temps. Au contraire, on dit qu'on en manque constamment, puis on est très, très centralisé sur nous-mêmes.
Parce que tout le monde veut être virtueux ou tout le monde veut paraître virtueux.
Ben oui.
Mais.
C'est pas un peu hypocrite?
Ben oui, ça l'est.
Tu sais, c'est un peu ça.
Puis je m'excuse de te l'avoir démontré.
Mais le pire, c'est que je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie d'être d'accord avec toi. Mais même moi, ça m'a mené à me poser des questions puis à me dire, OK, tu sais, c'est vrai, c'est quand la dernière fois que j'étais allé en faire, moi, mettons, du bénévolat? C'est quand la dernière fois que je me suis impliquée ou que mes babines ont suivi... En fait, que mes bottines ont suivi mes babines, c'est plus ça, tu sais. J'ai fait un petit sondage maison pour conclure ce Vox Pop-là parce que je me disais... Là, moi, je me suis promenée ici, là, dans le building, là, à aller poser des questions à du monde par rapport, là. Mais... Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont répondre, qui vont s'impliquer. Fait que, est-ce que les Paralympiques sont importants? 66 % des gens disent oui, 13 % disent non. Je serais curieuse de comprendre pourquoi. Il y a 21 % des gens qui sont complètement indifférents.
Fait que, quand même, 13 % de psychopathes sur tes réseaux sociaux.
Ben, ou 13 % de gens très honnêtes. Oui. C'est peut-être louable dans le fond. Pourquoi c'est important? Ben là, on l'a un peu dit, mais tout ce qui est représentativité, l'accès à l'excellence, même avec des limitations, je trouvais ça beau. L'exemple de résilience aussi, tu sais.
Oui.
Parce que tu as des gens qui ont un handicap que c'est pas de naissance. Ils ont vécu des affaires franchement traumatisantes, tu sais. Il y a des athlètes, je lisais un article d'opinion là, cette semaine dans la presse, là. Tu sais, il y a un des athlètes, là, à la nage, qui carrément, sa jambe a explosé, là. Il était en mission, puis... Fait que, tu sais, tu as des gens que c'est tragique. Fait que la résilience, c'est des modèles pour tous, c'est revenu pour sensibiliser les gens, c'est important. Puis de dire qu'un handicap, ben c'est pas une limite. Est-ce que tu les regardes? 88 % des gens ont dit non. Il y a un petit 12 % quand même qui disent qu'ils regardent les Paralympiques puis qu'ils suivent ça. Je ne sais pas si c'est totalement honnête, mais ces 12 %-là sont là.
Je pense que dans ce 12 %-là, il y a des menteurs.
Probablement.
Puis à mes yeux, à moi, les menteurs sont pires.
Oui, parce qu'assume-toi rendu là. T'sais?
Exact.
Tu les écoutes pas.
Dis pas que tu les écoutes pour paraître d'une bonne personne,
non.
Que moi, je vais te dire à quel poste de télé tu écoutes ça. C'est là où tu vas commencer à me détester.
Où c'est que tu peux les regarder, hein, les Paralympiques, si tu suis ça?
C'est où, hein? Écoute, tantôt, j'entendais du Guy Nantel.
Ah, oh, ouais, ben oui, ben oui.
Oh, ça va être Audrey Nantel.
Ah, mais moi, j'aime ça, ces affaires-là. Là. Est-ce que tu es pour le bénévolat? Ben là, c'est sûr que 92 % des gens ont dit oui. Il y a 8 % des gens qui disent qu'ils sont pas pour le bénévolat. Là, je trouve qu'il y a de la... C'est sociopathe un peu pour vrai, ça, là. Et c'est quand la dernière fois que tu as fait du bénévolat, j'avais mis des options. Puis dans la dernière année, il y a un 50 % des gens quand même qui en ont fait.
Félicitations.
Dans le dernier mois, c'est autour de 20 %. Je trouve ça quand même pas pire. Le reste, ben c'est dans les 5 dernières années à 27 % et jamais il y a un bon 20 % qu'il y a des gens qui ont jamais fait ce bénévolat-là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a peut-être une éducation derrière ça. T'sais, je sais pas si toi, mettons, tu conscientises tes gars au fait que ça existe, Yann, au quotidien, puis ça fait pas de toi un mauvais père si tu le fais pas, là, mais mon point, c'est plus que moi, mettons, j'ai été dans un programme international, le PEI. Puis nous, ben, c'était une obligation pour avoir ton diplôme secondaire. Tu avais des heures par année à remplir. Puis c'était pas beaucoup, là, c'était 10 heures. Là. Je veux dire, une journée, à la limite, c'est faite le 2, si vraiment tu y tiens. Puis dans toutes sortes de contextes, moi, j'avais été dans des centres de personnes âgées, j'avais fait du bénévolat dans plein de contextes différents, puis j'avais beaucoup appris de ça. L'affaire, c'est que quand je suis sortie du secondaire, demande-moi si j'en ai fait énormément depuis... pas tant.
Ah ouais.
Ça fait pas partie de notre culture du quotidien. Je donne beaucoup, par exemple, monétairement. Quand l'Aubrivière a besoin dans le temps de Noël, quand on a des codes faciles, on peut texter aujourd'hui, ça, le don est là, mais donner de son temps, souvent, c'est ce qui aide le plus pour que la machine roule.
Il y a des choses qui sont très cool à faire dans le bénévolat. Moi, j'ai fait du bénévolat chez Adaptavie. Donc, c'est l'ancien hôpital François Charron. Puis, je m'occupais des gens qui étaient traumatisés crâniens. Ceux qui voulaient jouer au hockey, ben on faisait du hockey-ball dans le temps, ce qui est maintenant rendu le décaqué. Fait qu'on faisait du hockey-ball dans le gymnase. C'était comme des rochers, je pense, qui était superviseur à ce moment-là. Puis, à la fin... quand je me disais, là, j'ai plus le temps de faire ça, je me suis rendu compte que ça m'apportait plus à moi qu'à eux autres.
C'est souvent ça?
Ben, faut dire que j'étais le meilleur joueur, là. J'étais le seul qui était en shape. Mais quand je suis parti de là, j'ai eu comme un petit deuil à faire. Parce que là, j'avais l'impression de changer le quotidien des gens.
C'est valorisant.
Ils sont à l'hôpital.
Ben oui.
Ils sont pas tout le temps contents d'être à l'hôpital, on va se le dire. Puis là, ben, on avait comme 2 heures d'activité physique. Puis ils appréciaient être là. Puis quand je suis parti de là, parce que j'avais plus le temps, si je me suis aperçu que c'était à moi que je donnais plus qu'à eux autres. Là.
C'est vraiment très, très valorisant. Bien, on a un ami ici, nous autres, qui donne de son temps constamment, Jeff Fortin. Je veux le saluer parce que ça me fascine toujours à quel point il est impliqué. Puis lui, les bottines suivent les babines. Donc, pour parler de ça, on va jaser tantôt avec Guillaume Duluth, docteur en psychologie. Le principe, justement, psychologique derrière nos comportements, ça nous intéresse énormément. Si vous avez le goût de participer, bien, c'est le 88-971-1021, texto.
Oui, on a quelques messages qui sont rentrés, Audrey, si tu veux bien y aller là, pour les lire. Je pense que j'en ai vu 2-3 qui étaient extrêmement pertinents. Là. T'es as-tu?
Bien là, tu vois, j'en ai quelques-uns qui sont rentrés ici. Là. Bon, il y en a qui donnent leurs opinions, évidemment, sur les Paralympiques de façon plus précise.
Parce que la couverture,
là.
Comme exactement. Quoi la couverture n'est pas assez grande. Moi, je les mettrais quand
avant.
Même pendant.
Ah oui, moi, je les mettrais avant les gros Olympiques, là, dans le sens que je trouve que c'est une belle prémisse. Tu commences à t'y intéresser, c'est un beau réchauffement.
Parce que sur tout TV, là, tu pouvais choisir ta discipline. Fait que si tu les mets pendant les Jeux Olympiques, les Paralympiques puis les Olympiques en même temps, ben c'est sûr que la télé va couvrir comme juste une discipline. Mais pour ceux qui seraient sur tout TV, ils pourraient aller voir justement les Paralympiques.
Je dois vous dire, par exemple, que Radio-Canada a fait une super belle job avec les Olympiques cette année. Ils continuent de la faire avec
vraiment.
Les Paralympiques.
Ouais, ouais.
Et puis, je dois leur lever mon chapeau. Là. J'aime beaucoup la façon dont ils le traitent.
Sauf que
aussi,
l'audimat n'est pas là.
Ouais. Non, non, ça, on se suit complètement.
Voilà.
Il y a des auditeurs qui, en gros, là, j'ai lu pas mal tous les textos qui sont entrés en diagonale. Puis, ce qui revient, c'est pour être franc, si je tombe dessus, j'y porte attention, mais c'est pas quelque chose que je mets à mon horaire.
OK. Hey, je vous parle du Port de Québec qui vous invite à la 3e édition de la Fête maritime familiale. Quand ça? Ben, c'est le 7 septembre prochain. Venez découvrir l'univers maritime à Québec dans une ambiance festive et familiale. C'est une superbe occasion de passer du temps en famille au cœur de la ville de Québec. On cherche souvent des trucs à faire. Ben là, je vous en donne un truc à faire qui est hyper le fun. Aussi, sur place, il y aura des cadeaux qui seront donnés aux participants, de l'animation, déambulatoire, démonstration sur le fleuve. Ça va brasser plusieurs activités gratuites aussi. Et bien plus, ça se passe le samedi 7 septembre de 13h jusqu'à 17h, ou ça, au quai 21, derrière l'Agora du Port de Québec. On vous attend. Pour plus d'informations, visitez portquebec.ca ou encore le Facebook du Port de Québec.
Le beau-frère est en vacances chez vous? Amène-le chez Chaloux, ton spot à bière préféré. Toujours le plus grand choix au meilleur prix.
OK, 10h45, vous avez des choses à nous dire? C'est le 418-971-1021 par texto. Là, je vous le dis, ça risque de brasser.
On a donné un coup de pied dans un nid de guêpes. Puis, on n'a aucune connaissance en psychologie. On a nos petites expériences personnelles, bien entendu.
C'est tout, hein?
Mais on s'est dit, on va aller jaser avec quelqu'un qui s'y connaît pas mal plus. Il est docteur en psychologie. Et pourquoi on a décidé de lui parler? Parce qu'on considère qu'on a de drôles de comportements comme être humain. On remarque parfois que les humains ne veulent pas déplaire. Tout le monde veut être une bonne personne, quitte à être même hypocrite et menteur. Puis le principe psychologique derrière nos comportements nous intéresse beaucoup. Donc, on va aller jaser avec Guillaume Dulude, qui est docteur en psychologie. On croyait faire un appel international, aller en Afrique, mais finalement, il est revenu à Montréal. Fait qu'on a quelques centaines de kilomètres qui nous séparent. Salut, Guillaume Dulude, salut!
Salut, ça va bien tout le monde?
Ben oui, on est content de te jaser. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Audrey, je vais te laisser poser tes premières questions.
Ah, écoute, ma première est très simple, Guillaume. On va y aller. Tu dis on ouvre une boîte de Pandore. Je pense que j'ai envie, moi, ce matin, qu'on se dise un peu nos quatre vérités comme être humain. Est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite dans nos approches?
OK, c'est ça.
C'est pas fort, hein?
Très bon. On l'est, puis on n'aime pas ça. Les humains n'aiment pas ça, se comporter différemment de ce qu'ils pensent ou ils ressentent. Mais des fois, c'est le meilleur comportement qu'ils pensent faire. Donc il y a un peu d'hypocrisie là, qui se glisse dans nos comportements.
Mais pourquoi l'être humain est comme ça? Puis on peut faire un parallèle avec les sondages. Tu sais, quand il y a des sondages, là, s'il y a quelque chose qui n'a pas la cote, mettons, on se fait poser une question, on sait pertinemment que la majorité des gens répondraient telle ou telle réponse. Fait qu'on va répondre comme eux répondraient plutôt que notre propre réponse à nous. Pourquoi on se ment à nous-mêmes quand on fait ça?
C'est parce que le cerveau, c'est une machine de calcul de gains en énergie. Et un calcul de perte potentielle. Donc, parmi les gains potentiels les plus importants, c'est l'approbation sociale et le fait d'avoir une haute valeur sociale, ce qui s'appelle le prestige social. Et plus ton prestige social est élevé, plus ton cerveau se situe dans une haute position hiérarchique dans un groupe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important, je pense, pour le sujet dont on parle ce matin. Les humains sont obsédés de leur positionnement hiérarchique. C'est sûr qu'on ne pense pas à ça consciemment sans arrêt. C'est un modus par défaut de s'orienter vers ce qui va nous avantager le plus. Et donc, pour maintenir une position sociale ou éviter de dégringoler d'une position sociale qui est carrément la plus grande phobie des humains, ben, il faut que tu puisses organiser un discours qui va faire en sorte que ta perception externe, ta perception sociale va pouvoir te maintenir dans le plus haut statut possible. Mais ça vient avec un coût, c'est-à-dire des fois, ce que tu aurais le goût de dire, ce n'est pas ce qui va t'avantager socialement dans le moment présent. Et c'est là où ce que tu ressens, puis ce que tu veux dire, puis ce que tu montres publiquement, ben là,
c'est dur de s'assumer.
Ouais. Puis ça, Guillaume, on y va d'instinct pour être sûr et certain de grimper dans une certaine hiérarchie sociale. Est-ce que ça peut être comme, je sais pas moi, un loup dans une meute, il veut constamment essayer de grimper la hiérarchie, puis il veut constamment savoir où est-ce qu'il se situe?
Oui, c'est il y a plusieurs modules dans le cerveau qui vérifient sans arrêt notre positionnement. Ah, ouais. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On évalue ça sans arrêt, sans arrêt. Et aussitôt que soit que notre cerveau anticipe qu'il peut y avoir une destitution, une forme de dévalorisation, de dégringolade hiérarchique, il y a de l'anxiété qui va arriver, il va y avoir des mécanismes automatiquement qui vont arriver, la plupart du temps non conscients, pour tenter d'empêcher cette chute-là hiérarchique.
Est-ce que le fait aussi qu'on simplifie peut-être le bien et le mal, tu sais, on l'apprend quand on est jeune, qu'est-ce qui est moralement correct, qu'est-ce qui l'est pas, ça peut-tu venir jouer dans la balance? J'ai l'impression des fois qu'on ne se pose pas assez de questions.
Oui, c'est aussi un énorme sujet. C'est le bien et le mal, où est-il? Sous quelle forme se présente-t-il? Comment on se positionne par rapport à ça? Donc, c'est qu'est-ce qui est perçu comme le bien et le mal dans un groupe, dans une société ou dans un système? Évidemment, publiquement, tout le monde va être pro ce qu'on appelle le marketing du bien, donc, ou la vertu. Il n'y a personne contre ça. Donc, ça veut dire que si, mettons, tu as une opinion qui ne va pas dans ce sens-là, toi, bien, tu vas risquer un backlash quand même important. C'est-à-dire, si tu te prononces contre une vertu du moment qui jugent les bonnes, ben là, tu t'exposes à être rétrogradé dans ta hiérarchie parce que là, il faut promouvoir quelque chose qui est fort, quelque chose qui est bon hiérarchiquement. On ne promouvoit jamais quelque chose qui n'est pas bon. Donc, tu prends un risque social en disant quelque chose qui va aller à l'encontre là, d'un courant actuel.
Puis dans nos comportements quotidiens, mettons que je prends l'exemple, tantôt on jasait beaucoup de bénévolat. On va savoir que le bénévolat puis aider les gens qui sont plus dans le besoin que nous, bon, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est important. Ça fait partie de la catégorie du bien. On l'assume, puis il n'y a personne qui va dire que ça n'a pas lieu d'être, on s'entend.
Est-ce
qu'on est rendu, par exemple, insensible? Puis je m'explique, j'ai le sentiment qu'on nous montre tellement la misère humaine, que ce soit par de la publicité, des films, des scènes des fois qui n'ont pas de bon. On sent que c'est comme si, là j'écoute, c'est peut-être juste moi dans ma tête, là, mais c'est comme si on ne faisait plus la distinction avec la réalité, donc on est moins touché et porté donc à aider. Vois-tu où je m'en vais?
Excuse-moi, je t'ai perdu dans ta question à un moment donné.
Je me répète.
C'était trop compliqué pour moi. Si tu avais juste à me la simplifier juste un peu pour m'aider un peu.
Est-ce qu'on est rendu insensible, en fait? C'est un peu ça, mon questionnement. Okay. On est beaucoup exposé à toutes sortes de scènes, puis j'ai le sentiment que des fois, on est moins porté à aider ou à se laisser amadouer par certaines situations, même si on devrait.
OK, je comprends. Oui. Alors, il y a d'autres mécanismes qui empêchent la manipulation. Alors, les humains fonctionnent en préservant le maximum de ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, c'est de dire, mon cerveau peut générer des désirs, des comportements, des intentions, et je veux faire ça sans avoir à payer le prix de cette autonomie-là. Donc, on veut protéger l'autonomie. Maintenant, on est dans un système humain, un système médiatique très complexe avec toutes sortes de demandes qui vont à gauche et à droite et sans arrêt et sur toutes les plateformes. Maintenant, au bout de tes doigts, au téléphone, à chaque seconde, tu es sollicité. Mais quand tu es sollicité, le cerveau est toujours dans un dilemme, c'est-à-dire là, moi, je n'ai pas le goût d'aller dans ce sens-là, j'ai le goût de penser à moi, mais d'un autre côté, je ne peux pas m'opposer à cette cause-là. Donc, c'est là où tu as le cœur déchiré en deux et là, la culpabilité arrive. C'est-à-dire, la culpabilité a un rôle prépondérant dans le thème dont vous parlez aujourd'hui. C'est-à-dire, sur le moment, j'ai le goût de penser à moi, mais généralement parlant, la bonne chose à faire, ça serait d'encourager ça. Sauf qu'encourager ça, concrètement, ça veut dire faire de l'effort, ça veut dire qu'il faut que je m'implique et j'ai de la misère à avoir la fin de mes propres journées, mais je ne peux pas non plus dire non à aider mon prochain. Donc, on est pris dans des conflits moraux et penser à son confort puis essayer de s'impliquer dans des grandes causes.
C'est de l'activisme paresseux.
Ben, l'activisme, pour moi, c'est un peu différent parce que, mettons, je sais, toi, est-ce que tu te considères très, très activiste extrême?
Ou pas tant.
À part à la maison qu'avec petit chum, là.
Je te mentirais, Guillaume, de te dire que oui, là.
Bon, ben, mettons, OK, je vais dire, mettons, toi puis moi, on n'est pas des activistes extrêmes, mais ça n'empêche pas que toi puis moi, on veut le bon des autres.
Oui, 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 on est d'accord.
Ça n'empêche pas que... On veut que le meilleur se passe pour les autres, donc ça veut dire qu'on a de l'empathie quand d'autres souffrent.
Oui.
Quand d'autres souffrent, moi, je ne suis pas content. Si moi, j'avais le choix de dire... j'aimerais mieux qu'il y ait moins de souffrance que plus de souffrance, c'est sûr que je pèse sur le piton moins de souffrance.
Mm-hmm.
C'est comme, OK. Mais là, la question, c'est OK, mais s'il faut que je fasse beaucoup, beaucoup de choses pour que ça arrive, wow, là, ça commence à empiéter sur mon temps de moi. Et là, je suis en compétition avec ce que je souhaite, qui aimerait, qui est une vertu, un vœu, un souhait, avec concret, la vie concrète, c'est-à-dire le coût, parce que là, il y a des ressources qui sont allouées, qui ne sont pas limitées, c'est-à-dire ton énergie, ton argent, 24 heures en une journée.
Mais ce n'est pas des excuses un peu, Guillaume? Tu sais, on dit tout le temps qu'on peut faire du temps, on peut créer le temps quand on le veut, là.
Ah, c'est 100% des excuses, mais ça s'appelle aussi des choix.
Mm-hmm.
Ça s'appelle des priorités, ça s'appelle des compétitions internes sur qu'est-ce qui vaut le plus cher pour toi, malgré ce que tu sens. Donc, on se sent complètement divisé. Mais là, pour venir à ta question, c'est que pourquoi on devient plus résistant? C'est que les humains sont de plus en plus sollicités sans arrêt. Ton téléphone, tu vas être harcelé de messages qui vont te faire vivre de la culpabilité de ne pas tout à fait conduire avec la meilleure version de toi possible. Mais d'un autre côté, tu peux dire, hey, là, je suis quand même une bonne personne. Fait que là, il faut que tu te justifies intérieurement dans ta tête de dire, hey, je suis une bonne personne, là, c'est juste que là, je peux pas aider tout le monde. Puis là, je suis déjà en train d'aider ma famille. Puis là, Et là, tu pars, puis on se bat contre ça par culpabilité. Fait que... Et depuis les médias sociaux, depuis qu'on a un téléphone intelligent, ce conflit-là interne est sans arrêt. Et donc, le cerveau, par économie d'énergie, il faut qu'il se protège, d'où ce que tu appelles la résistance. Et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, il faut que je me ferme un peu plus parce que sinon, je ne ressens que de la culpabilité.
Cette discussion-là qu'on a, Guillaume Dulude, juste à rappeler aux gens que tu es Guillaume Dulude, docteur en psychologie chez Psycom, cette discussion-là que j'avais avec Audrey en début de semaine, ça a parti sur l'idée de faire venir des gens pour nous parler de Jeux paralympiques. T'sais. Moi, je suis très honnête avec Audrey, j'ai pas le choix de le faire par le métier que je fais. L'idée derrière tout ça, c'est d'intéresser le plus de monde possible. Et je dis, Audrey, tu sais, toi et moi, on sait que c'est important les Jeux paralympiques, mais concrètement, quand on regarde les codes d'écoute des Jeux paralympiques, la majorité du monde s'en sacre éperdument, ils ne regardent pas ça. Mais ils vont tous te dire que c'est important, les Jeux olympiques. Mais ils ne prendront pas la peine de regarder une discipline et de la suivre de A jusqu'à Z. Puis on dirait que plus on vieillit, Guillaume, plus on porte attention au comportement humain des gens qui nous entourent, plus les gens qui sont inconséquents m'agacent. Parce que à mes yeux, à moi, puis je vais te donner un exemple de quelqu'un que tu dois déjà avoir vu passer dans l'actualité, Stephen Guilbeault, qui est le ministre de l'Environnement au Canada, qui est un gars avec qui, probablement, je ne m'entendrai jamais. Mais le gars, il venait en entrevue avec moi des 3 heures de temps, à peu près à chaque mois. Il partait de Montréal en autobus, il arrivait à Québec, puis il marchait jusqu'à la station avec son gros coat d'hiver, sa grosse tuque sur la tête, ses grosses bottes, puis il arrivait, il me serrait la main, puis il me parlait d'environnement. Moi, là, ça, là, même si le gars, c'est le gars avec qui je m'entendrais probablement le moins sur la terre, le gars était conséquent avec ses propos et avec ce qu'il prônait. Et moi, ces hommes-là, des hommes conséquents, hommes et femmes conséquents, j'admire ces gens-là, même si je pense pas comme eux, mais on dirait que c'est y en a pas beaucoup de ces personnes-là. Un politicien qui va me dire, ben là, Yann, on aimerait que tu sois constamment dans le transport en commun parce que ton véhicule pollue, mais que je vois que le politicien, il voyage à gauche et à droite pour rien dans le monde en avion, juste pour faire des voyages, aller serrer des mains et tout ça, alors que le Zoom existe aujourd'hui. Moi, je trouve pas ça conséquent. Et ce politicien-là ne rejoint pas mes valeurs à moi, tandis que l'autre avec qui je m'entendrais pas rejoint plus mes valeurs à moi parce qu'il fait ce qu'il dit, puis il pense ce qu'il dit.
Oui. Oui, puis je pense que, veux pas, qu'on soit d'accord ou pas avec le propos d'une personne, je pense qu'une des règles les plus importantes entre humains, c'est la cohérence.
Oui.
Une personne qui réussit à être cohérent, ça veut dire que c'est une personne qui a tracé des lignes morales, comportementales et des buts orchestrés là-dedans et est capable de faire les sacrifices appropriés pour ça. Juste ça, c'est absolument honorable et je vous dirais, c'est rare. Une personne qui est capable d'être cohérente entre ses mots, comment elle se sent, elle se comporte, c'est vraiment difficile et je suis à la même place que toi. Mais c'est pas commun. C'est vraiment pas commun.
Non, mais ces gens-là, on doit s'entourer de ces gens-là parce que, je veux dire, à mes yeux, à moi, j'aime mieux avoir des gens cohérents côté de moi avec qui je m'entends pas que des gens qui le sont jamais. T'sais, ils vont dire quelque chose, mais ils vont faire le contraire.
Oui, on a tous un côté incohérent, par exemple.
Moi, je suis pro-environnement, je suis un environnementaliste, mais quand tu regardes la maison, tout est le bordel partout, il fait son changement d'huile, sac ça dans les poubelles, c'est du gros n'importe quoi. Il y a des gens qui veulent être extrêmement virtueux, qui se disent virtueux, constatent à quel point les politiciens peuvent dire des choses qui sont ignobles et font la morale à ces politiciens-là.
Mais ils votent pas.
Et où, dans leur vie en général, ils font totalement le contraire de ce qu'ils prônent dans les médias. C'est tout ça qu'on appelle du virtue signaling?
C'est ça et d'autres choses en plus. Mais oui, ça commence avec l'idée que... Parce que là, c'est ça qui est intéressant dans votre sujet ce matin, c'est qu'il y a des choses qu'on trouve moralement bonnes, il y a des choses qu'on veut mettre de l'avant, mais après ça, tu peux faire d'autres choses, dépendamment de ton agenda secret dans ta tête. En ce moment, le fait de dénoncer des vertus, de t'afficher ou te brander comme une personne vertueuse, c'est un branding. Et c'est avantageux politiquement, socialement, et c'est avantageux même en termes de ton emploi et de ta réputation. C'est bien vu maintenant d'être une espèce de roi ou de prêtre qui dit les règles et qui informe les autres des bonnes règles et qui informe les autres de ceux qui ne font pas les bonnes choses. Donc, ça vient avec un espèce de rôle qui est pseudo-religieux maintenant, le virtue signaling. Puis évidemment, les experts de ça sont les grands, grands activistes, ceux qui sont 100% dédiés à ça. C'est pas juste la paresse ou le fait de dire « Ah, oh, ils sont pas tout à fait cohérents. » Pour moi, on n'est plus dans ça. On est dans une stratégie qui consiste à utiliser la supériorité morale et convaincre les autres qu'ils se comportent mal. Donc, c'est un jeu de pouvoir à ce moment-là.
Y a-t-il un peu de narcissisme là-dedans?
Oui, c'est absolument. Oui, il y en a du narcissisme parce que pour faire ça, tu dois penser qu'il y a une supériorité morale qui t'appartient. Donc, le narcissisme, hein, si on résume, c'est une perception d'une valeur supérieure par rapport aux autres, mais sans vraiment preuve de ça. C'est-à-dire que si tu mesures, par exemple, là, des personnes qui ont un haut score de narcissisme, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont d'habitude dans la moyenne. Okay? Grosso modo, c'est ça. Mais dans leur tête, ils sont meilleurs et ils ont une valeur plus grande. Et donc, ils accumulent un décalage avec la réalité et leur façon de fonctionner consiste à maintenir l'illusion qu'ils sont meilleurs. Alors, la chose que tu peux faire le plus vite en ce moment avec les courants actuels et les médias sociaux, tu peux te montrer moralement supérieur parce que la moralité est aussi une hiérarchie. Donc, tu peux te servir de cause, de groupe, de tendance pour devenir, de façon autoproclamée, le leader de cette cause-là. Et par conséquent, tu t'assures d'avoir une reconnaissance, un prestige supplémentaire.
Fait que si je te suis, moi, demain matin, sur les réseaux sociaux, je pourrais partager tous les jours des posts d'enfants en Afrique qui mangent pas, des posts de guerre, des posts de toutes sortes d'affaires. Je pourrais partager plein, mais ne jamais m'impliquer dans la communauté, exact. Être semi-informé, pas trop savoir de quoi je parle. C'est bien exact. Ça? Donc, 70 % des internautes, c'est ça?
Mais non, c'est qu'il manque un morceau à ton affaire, parce que okay. Là, oui, c'est la plupart des internautes ce que tu viens de dire.
Vas-y.
Alors, la composante magique, c'est que dans ta nouvelle carrière là, que tu me présentes, il faudrait que tu me présentes c'est qui les méchants. Il faut que tu me présentes des oppresseurs, un groupe d'oppresseurs, et que tu sois la plus haute hiérarchique par rapport aux victimes. Donc, tu es maintenant le rôle de la sauveuse de ce groupe-là, une sauveuse non élue par personne, autoproclamée.
Ouais.
Mais c'est comme toi, dans tout l'ensemble des victimes ou de cette cause-là, qui est sur le top. Et par conséquent, tu es auto-investi dans ta tête d'une mission qui justifie les attaques et même de la violence contre les oppresseurs que tu vas avoir déterminé toi-même dans ta propre vision des choses, en dehors des faits. Donc, tu vas manipuler les faits, tu vas prendre des faits, tu vas te convaincre de ça, tu vas t'inspirer d'autres activistes qui pensent comme toi. Il va y avoir du regroupement parce qu'on veut rester sur le top de cette business-là. Donc, évidemment, là, je dis ça, hein, mais personne dit ça. Là. Ce qu'on se dit là, c'est un sujet hyper, hyper, hyper tabou. Là. Je me souviens même pas quand est-ce qu'une émission m'a invité pour dire
Bienvenue
ça.
Bienvenue dans l'open mic.
Oui, ben, mais c'est comme ça. C'est une quête narcissique qui vise à rééduquer l'environnement selon sa façon. Donc, c'est garder un contrôle. Il ne s'agit pas simplement de postes déresponsabilisants ou avec des valeurs.
T'es-tu encore capable, Guillaume Dulut, c'est une question vraiment personnelle, t'es docteur en psychologie, t'es-tu encore capable d'apprécier le monde?
Hey, si tu savais à quel point c'est une bonne question,
Parce que moi, je te suis depuis des années, j'ai lu tes livres, je te trouve très pertinent, tu nous apprends constamment des choses. Je regarde tes épopées en Afrique, ce que tu apprends aux gens qui vont voyager avec toi en Afrique. J'apprends plein de choses, puis des fois, je jase avec Audrey, qui est une fille qui est extrêmement positive, puis j'ai l'impression comme d'être l'éteignoir. Puis quand je vais sur Facebook, puis là, je vois des affaires, puis je me rends compte des gestes que ces gens-là posent, qu'ils veulent faire comme gestes, sans nécessairement laisser le savoir, je me dis, faut que j'accepte qu'il y a des gens comme ça qui font ça sans nécessairement faire par exprès. T'sais. Ils ont le droit de se prétendre être le chef des victimes, mettons.
Ça me tape sur les nerfs.
T'es-tu capable de les aimer, ces gens-là?
Ah, mon Dieu, hey, c'est bon comme question. Vous êtes vraiment bon, franchement. Je ne pensais pas aller là. Alors, c'est un défi personnel quotidien. Puis, c'est pas. je ne dis pas ça de façon légère. C'est actuellement un défi pour moi parce que ces choses-là ont changé beaucoup depuis 5 ans. En 5 ans, la même job que je faisais, les mêmes ateliers, les mêmes formations, le même discours,
ouais.
Depuis 5 ans, tu peux dire n'importe quoi et tu vas avoir des regroupements qui vont faire des plans élaborés là, pour court-circuiter et nuire. On n'est pas du tout sur la même planète. Et moi, je peux vous dire, ça me coûte 300 000 piastres d'avocat par année facilement. Là, facilement.
Ben voyons donc.
Parce que c'est une job à temps plein, activiste. Et ils se croient, c'est une religion, OK? C'est vraiment une religion installée et c'est pas facile à bouger. Donc, pour répondre à ta question, c'est qu'il faut, pour moi, ça me prend un travail actif de dire, ceci ne représente pas la majorité de la population, ça représente une minorité de la population qui est très organisée, très bruyante.
Mais c'est dur!
Oui, mais il faut s'accrocher sur le fait que c'est comme les humains ont beaucoup de bonnes choses à faire. S'ils savent quoi faire, s'ils savent comment jouer au jeu de la vie, s'ils savent comment se connaître, s'ils savent comment faire des plans, réaliser des choses, voir où est le potentiel. Quand tu commences à être équipé, là, tu construis quelque chose. L'activiste n'est pas basé sur construire quelque chose. C'est basé sur dénoncer quelque chose et neutraliser les méchants. Ce qu'il faut faire, c'est dire, est-ce qu'il y a des problèmes? OK, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble de plus? Mais ça, c'est moins spectaculaire. Mm. Tu ne peux pas être hiérarchiquement meilleur que les autres. C'est du travail d'équipe, c'est de la petite poutine d'humain, mais au moins, elle est saine et c'est faisable. Donc, c'est sûr qu'il faut se remettre le focus sur notre vrai job d'humain, de dire, il ne faut pas se laisser intimider par ça, parce que l'intimidation fait partie des stratégies activistes aussi, affecter ta réputation et tout ça. C'est toutes des stratégies pour neutraliser l'opposition, pour renverser ta hiérarchie, s'assurer que tu restes sur le top.
C'est pas discussions saines, mais pas en toutes
les... Non, puis ces gens-là se considèrent, ils considèrent le droit de dire à peu près n'importe quoi sur toi, même à saloper ta réputation pour te détruire.
Ouais.
Mais dans leur tête, ils ont résolu ce conflit-là en disant « Oui, mais ma quête est tellement grande et c'est moi qui dois le faire. »
Sauf qu'ils font rien de concret pour cette quête-là. Moi, c'est ce qui me met dans tous mes états. À part crier fort, il se passe pas grand-chose. Mettons, Guillaume, qu'on ramène ça à, j'allais dire, au petit monde. Donc, moi, toi, Yannick et tout le monde à la base, mettons, les gens qui sont pas dans les extrêmes, tiens, je vais le dire comme ça. Oui. Est-ce qu'on doit s'en vouloir? T'sais, mettons qu'on revient à la base du sujet, là, t'sais, qui est le fait qu'on n'est pas toujours conséquent entre ce qu'on prône bien au quotidien et ce qu'on fait pour réellement suivre finalement nos paroles. On doit s'en vouloir ou nos excuses ont peut-être lieu d'être à quelque part?
Moi, je pense pas qu'il faut s'en vouloir parce que ça, c'est surfer sur de la culpabilité. La culpabilité, c'est un des plus gros... Une des émotions les plus toxiques qui va te rétracter, créer de la honte, qui va te rendre encore plus narcissique et nombrilistique parce que tu vas être attardé à te déculpabiliser de quelque chose. Alors, tout le monde est coupable de quelque chose. Un, donc déjà là, oui, on est tous coupables de quelque chose. Deux, on n'est jamais parfait. Par contre, en étant imparfait et en n'étant pas toujours cohérent, l'objectif, c'est de dire, oui, mais je suis capable d'être de plus en plus cohérent et je vais déterminer plus précisément en quoi je vais être cohérent et quels sont mes thèmes les plus importants pour moi, puis je vais essayer de me dévouer plus à être cohérent pour moi dans ça. Et ça, c'est un beau projet personnel, psychologique, qui va avoir des répercussions, non seulement personnelles, mais plus larges, parce que ça va te donner une ligne de pensée. Ça va te rendre plus courageux pour dire, regarde, je pense comme ça, je veux me comporter comme ça. Et ça, prendre cette responsabilité-là de dire « je pense comme ça, je vais me comporter comme ça », automatiquement, tu vas aller vers la meilleure version de toi. Là, tu commences à avancer vers une route qui te construit. Mmh. Donc, c'est dire « je veux m'améliorer, je suis un projet en développement, je veux améliorer des causes puis des choses dans ma vie et dans le monde ». OK, ben je suis en train de construire et je vais accepter les sacrifices que ça prend, même si je ne vais pas toujours réussir puis ça sera imparfait. Au moins, tu es en train de t'attaquer à quelque chose qui est humainement, fondamentalement bon. Et ça devrait être quelque chose qu'on doit faire, mais c'est souvent pas spectaculaire.
Ouais.
C'est souvent pas glamour.
Puis en même temps, c'est pas...
Le vrai travail est dans le noir.
C'est vrai, mais tu as tellement raison.
Ouais. Puis il faut accepter de déplaire quand on est conséquent.
Ça, c'est un autre gros problème, c'est que
une autre avec discussion,
les réseaux
ça.
sociaux, on n'a pas de tolérance à ne pas plaire. Donc, ça veut dire que tu vas modifier ta façon de penser et tes mots pour avoir un maximum de gains externes, c'est-à-dire le maximum de following, d'approbation sociale.
D'après moi, Guillaume, on n'aura pas le choix de se rejaser pour traiter et une autre affaire.
Hey, Guillaume, dans les prochains jours, c'est-à-dire le 20 octobre prochain, tu prépares un séminaire immersif de psychologie et de leadership. Tu fais ça dans Grosse Bâtisse à Montréal, de ce que je comprends. Et ce que je trouve incroyable, c'est que tu as des invités de marque ce soir-là, puis dont un que... J'ai lu ses livres, j'ai eu le plaisir de l'avoir en entrevue, puis je pense que je vais aller faire un tour strictement pour cet invité-là en particulier, c'est Chris Hadfield, l'astronaute.
Mm-hmm. Oui, ben merci de le mentionner, ça fait plaisir. Ça s'appelle l'événement Y pour souligner la Journée internationale du courage et de la responsabilité. J'ai réalisé il y a 2-3 ans que ça prend une journée où on se mobilise sur des facteurs qui nous aident vraiment, pas juste sur des causes à l'extérieur de nous. On est dans une ère une ère de droit, une ère où on exige des choses de l'environnement. Le problème, c'est que la machine humaine marche pas comme ça. Et comme la vie passe vite, nos années de vie passent vite, moi, je propose la solution qu'on se concentre sur nos propres projets, notre propre vie pour la faire avancer. Et ça se fait. Et donc, pour cette activité-là, ben ça s'appelle l'événement Y. L'année passée, on a réuni presque 5000 personnes au Palais des Congrès et on a ramassé 100 000 $ de dons pour les jeunes. Et là, cette année, ben c'est au Centre Bell. Donc, on espère de faire la même chose et mieux. Et on va parler de psychologie, on va parler de stratégie pour avancer, comment faire des choix, comment avancer en couple, comment tasser la culpabilité, transformer ça en énergie, comment on utilise des passions, comment ça marche une passion. On s'est aperçu que la plupart des adultes ont perdu leur passion. Ouais. Mais c'est super important parce que c'est de l'énergie brute qui te permet d'affronter tes journées puis tes défis. Donc, il manque des morceaux importants qu'on puisse créer la vie qu'on peut avoir, et ça se fait. C'est juste qu'on veut passer une journée, on va mettre des morceaux ensemble, puis on va mettre des journées, des personnes inspirantes à la scène, qui l'ont fait. Et moi, je vais décortiquer tout ça théoriquement toute la journée.
Ah, c'est le fun.
Et faire en sorte qu'on le fasse.
Donc, Chris Hadfield, Serena Williams qui va être là, Anthony Cavana va être avec toi, puis il y a bien d'autres invités qui vont être sur place. Si je veux des billets pour le 20 octobre, je me procure ça à quel endroit?
Sur mon site web communicationpsychom.com et vous allez avoir une page de vente qui a des billets de tous les prix qui s'adaptent à tous les budgets et vraiment, vous le faites pour vous, là, ceux qui veulent aller de l'avant, vous allez récolter quelque chose qui est très puissant, c'est-à-dire des outils pour entamer votre prochaine année. Puis créer quelque chose qui est fort, être équipé pour avancer, mais aussi tous les profits vont être donnés aux écoles. Donc, c'est pour une bonne cause, pour commencer à aider les écoles qui ont un peu de misère aussi.
Guillaume Duluth, docteur en psychologie, un gros merci d'avoir été avec nous.
Hey, merci à vous autres. Merci de votre temps. C'était merveilleux. Merci.
Bonne journée. Salut. À la prochaine.
Bye-bye. L'excellent Guillaume Duluth qui était avec nous. 418-971-101, si vous avez des choses à dire, on fait une courte pause. Vous êtes sur les ondes de Boulevard dans l'Open Mic.
Gravel. Dans le retour. Gravel.
J'ai demandé des duos qui chantent. Tu m'as dit les Black Keys.
Non, mais c'est... Oh, laisse donc.
Mais ils sont deux.
Oh, mais il y en a un qui chante pas.
Toi, là, depuis qu'un boss, tu prends tout le temps son bord.
C'est pas vrai, ça.
Ça m'agresse.
Ça, c'est
profondément.
Pas vrai.
C'est vrai.
Des fois, je prends ton bord, des fois, je prends
c'est
le
c'est fini, ce temps-là.
Moi, je suis comme sur un skateboard. Non. Il faut que je garde un équilibre.
Ouais, skateboard,
là.
Il est rendu plus pesant du côté
banane.
Patronal. Hein? Moi, je suis rien qu'un vulgaire employé. Mais oui. Rendu tout seul, ici.
Hey, j'ai pas l'air d'avoir une opinion.
Les auditeurs... Toi, ta propre opinion, c'était pas une opinion. Les auditeurs, ils ont compris ce que je voulais, un duo vocal.
Mais y a personne qui a les mêmes règles, Denis.
C'est pas des règles, c'est pas un jeu.
Il ne veut plus jouer.
Ça fait même pas 3 jours qu'on est revenus ensemble.